Donc Philippe Boineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pêcheur professionnel et multicasquette. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites ?
En fait, je suis pêcheur professionnel sur la Loire, surtout entre Chaumont-sur-Loire, Amboise et Mont-Louis. Et puis un petit peu sur le Cher, parce que j'ai le droit de pêche entre donc à l'aval d'ici et la limite Loire-Cher-Indre-et-Loire, donc à mi-chemin entre ici, Chissa et Chissot, jusqu'à la Monte-Bléré. Donc ça fait 8 km environ. Mais j'ai une formation de scientifique en fait, hein. Je suis docteur en sciences, en écologie aquatique précisément. Et je suis pêcheur, mais je suis aussi élu comme représentant des pêcheurs. Je suis présent pour le bassin de la Bretagne aussi au niveau national.
Au comité
national de la pêche professionnelle en eau douce.
Alors ici on est à Chissé en Touraine et on est donc assis tous les deux donc en bord de Cher et on a une eau donc relativement transparente et avec plein d'algues. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu finalement l'état de la qualité de l'eau avec une observation très visuelle là directe ?
Effectivement, on a l'eau transparente, très claire, donc les gens ont l'impression que l'eau est très propre, très pure, puisqu'effectivement on voit le fond à peu près partout, qui est 10 cm ou 3 mètres d'eau. Le problème, c'est que ça, c'est trompeur, parce qu'en fait, le fond est complètement, presque entièrement tapissé de grands filaments verdâtres. Ce sont des algues vertes filamenteuses, qui sont un signe très évident d'eutrophisation lourde, c'est-à-dire de pollution très importante, notamment par le phosphore et l'azote. Et donc, pourquoi est-ce que l'eau est transparente? L'eau était trouble, verdâtre, à brunâtre tout l'été, comme celle de la Loire moyenne, le Cher jusqu'à 5-6 ans. Et la Loire jusqu'à l'année dernière, la Loire, on a eu cet été une eau de roche, une eau de source, enfin, avec un aspect d'eau très très claire tout l'été. Et en fait, non, ça c'est lié à l'invasion de nos milieux aquatiques par une espèce exotique, donc invasive, qui est la corbicule. C'est un petit mollusque bivalve qui ressemble à une petite praire.
Un petit
coquillage, mais bivalve, c'est une petite coque ronde. C'est pas comme une moule qui est plus allongée et qui est originaire du Mékong, donc Asie du Sud-Est, donc des eaux tropicales. Donc, et cette espèce peut atteindre des grandes densités jusqu'à 4000 individus au mètre carré. Ce fait qu'en fait, continue qu'elle est sur des centaines de kilomètres, c'est la capacité de filtrer entièrement le débit du cours d'eau et en fait de capter tout le phytoplancton. Donc le problème, c'est que la chaîne biologique est captée par une espèce invasive. Et donc, par exemple, dans la Loire, les poissons se sont brutalement trouvés avec plus rien à manger. Dans le Cher, c'est un peu différent parce que le phénomène était un peu plus progressif. Et comme les corbicules relarguent, bien sûr, elles mangent, mais elles ont des déjections aussi. Donc, ça fait uniquement un transfert de pollution. Et on pourrait penser que du coup, il y a un abattement de la pollution, comme l'eau est claire, mais non, parce que les rejets des corbicules elles-mêmes font qu'elles rejettent beaucoup d'azote et de phosphore et d'ammoniac, et du coup on a ces algues vertes filamenteuses qui tapissent le fond.
Alors le problème de l'eutrophisation, c'est bien ça, c'est que, bon, enfin, vous pouvez nous expliquer un peu
L'eutrophisation, c'est un excédent de nutriments, hein, d'éléments de base de la chaîne alimentaire, surtout l'azote et le phosphore, qui, quand ils sont en excédent, permettent, alors c'est un excédent beaucoup... Alors l'origine sur le bassin du Cher, c'est mixte, hein, c'est un peu les collectivités qui sont pas bien raccordées, qui n'ont pas de très bonnes stations d'épuration, et puis l'agriculture industrielle, hein, avec les énormes épandages d'ammonitrate, et qui se retrouvent dans les cours d'eau, par les lessivages ou par percolation et relargage par nappe phréatique. Donc ces nutriments en excès, simplement au lieu d'avoir du maïs ou du blé qui pousse dans le Cher, on a des algues vertes filamenteuses. Mais on ne se rend pas compte, mais ça fait une biomasse, un tonnage énorme d'algues vertes qui poussent dans le fond du cours d'eau. Et le problème, c'est que ces algues, quand il va faire trop froid, elles vont mourir, elles vont se décrocher. Elles vont être charriées au moment où il y a des petites crues. Et puis tout ça, ça va se retrouver accumulé dans l'estuaire et ça va contribuer au fameux bouchon vaseux de l'estuaire. Mmh. Où là, cette matière organique, l'été prochain, accumulée, s'il n'y a pas une crue de plus de 3500 m3 cet hiver, toute cette matière organique stockée... va faire que les bactéries aérobies vont se mettre dessus pour la dégrader et vont consommer tout l'oxygène. Donc les deux étés derniers, on n'avait que 10 km de Loire sans oxygène, mais un été chaud, normal, on a 40 km d'estuaire de Loire sans oxygène.
Et même ici, là, à ce niveau donc, où elles poussent, toutes ces algues, pour pousser, elles consomment de l'oxygène, c'est de l'oxygène qu'en rompent pas les poissons?
Elles consomment de l'oxygène la nuit, mais elles en restituent le jour, donc on doit avoir des grosses variations. Mais les poissons apparemment sont encore assez nombreux dans le Cher. Ils n'ont pas été pour l'instant trop affectés par ces phénomènes, ces changements de conditions de vie brutaux, hein. Ce qui n'est pas le cas en Loire moyenne. Là, sur la Vilaine, depuis un an, il y a une grave épizootie de bucéphalose arvére. Alors, l'eau n'est pas claire parce
Alors,
que
c'est quoi ce gros mot?
la bucéphalose arvère, c'est un parasite, c'est un ver parasite, dont le stade larvaire premier se développe dans la moule zébrée, la Dresen, qui est présent effectivement dans le Cher, dans la Loire, depuis assez peu de temps, mais dans la Vilaine depuis plus longtemps. Elle se multiplie à l'infini dans les branchies de la moule, qui relarguent les larves, qui deviennent des cerquaires, des larves qui nagent et qui vont se fixer sur les nageoires ou la tête des poissons blancs, de tous les cyprinidés. Là, il s'enkyste dans le corps du poisson, en attendant que le poisson meure ou que vivant, il soit mangé par un cendre. Et le stade adulte se termine dans le cendre. Sachant que le cendre, tout le monde a l'impression que c'est une espèce qui fait partie de notre patrimoine. Non, non, c'est une espèce introduite très récente. C'est 1961 la première introduction de cendre dans la Seine. Et après, les pêcheurs ligne en ont mis partout parce que ça leur plaisait beaucoup. Donc, le problème, c'est que la Dresen originaire de la mer Caspienne et la mer d'Aral, le cendre, même zone, eh ben, ils ont apporté avec eux le parasite. Et du coup, ben, comme les deux éléments, la Dresen et le cendre, sont présents, le cycle peut se faire. Le problème, c'est que quand il y a un grave stress sur l'environnement, comme en Loire moyenne, hein, qui en 30 ans a pris 1,9 degré en plus en moyenne sur l'année, a perdu 40% de son débit, qu'on a des changements de conditions de vie assez brutales. Donc on a un peu plus de poissons tempérés qui se retrouvent avec avoisinés des espèces tropicales comme la jussie, la corbicule ou le pseudo-rasbora, qui est un petit poisson originaire du Mékong, un poisson d'eau douce tropicale, qui lui se plaît très bien chez nous maintenant, il s'y reproduit à foison. Et ben, ce peuplement d'eau douce tempérée se retrouve décalé par rapport à des conditions de vie normales. Tout d'un coup, brutalement, la corbicule a explosé cet été en Loire. Donc, brutalement, il n'y a plus de phytoplancton. Hein, c'est la première année où on voit le fond de la Loire partout, comme ici.
Alors le phytoplancton, c'est à la base
C'est
de
la base de la chaîne
l'alimentation,
biologique.
voilà. Manger.
Brutalement, ben, le poisson, ils ont eu beaucoup moins mangé. Donc, grosse biomasse de poisson. En décalage par rapport aux conditions de vie à qui on coupe on coupe y a presque plus à manger, donc ben, probablement parasitose, voilà. Plus abaissement des défenses immunitaires à cause des perturbateurs endocriniens que sont les micropolluants tels que les pesticides agricoles, dont on sait qu'ils sont aux doses dans nos cours d'eau, et puis ben, bloom, voilà.
Finalement, donc
Remise à
vous,
blanc.
en tant
Ce
que...
sont, ça, ce ne sont que des hypothèses, hein, qui demandent bien sûr à te vérifier, etc. Mais bon, c'est compte tenu de ce qu'on sait de l'évolution de notre environnement, c'est un scénario qui mériterait d'être
C'est
vérifié.
votre observation en tant que scientifique et puis de certains autres scientifiques que vous
Ah,
connaissez.
ce sont des observations sur lesquelles moi je pose des hypothèses. Voilà. Hein, bon, après, est-ce que ce sont les bonnes? Ça, j'ai pas la réponse. Il faudrait effectivement me lancer un programme de recherche là-dessus pour en savoir plus. Mais on aura les réponses, alors que déjà on a constaté pas mal de modifications sur le
Alors,
terrain.
vous-même, en tant que pêcheur professionnel, cette année, vous avez pêché beaucoup moins de poissons?
À 10% seulement de ce qu'on devrait pêcher normalement l'été. Hein. La friture, normalement je fais entre 20 et 30 kilos tous les soirs. Là j'ai fait entre 1 et 3 kilos. Donc des endroits où je pêchais du goujon, j'ai pas un goujon. Donc le goujon est très sensible à la bucéphalose. La blette l'est, mais un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'en faisant 30 km de canoë entre Amboise et Tours, j'ai vu 3 bancs de mulets sur 30 km. Et j'ai pas vu d'autres poissons. Je sais pas, Jean-François, tu peux dire, mais les poissons en Loire.
Il y a beaucoup de mulets, ouais.
Mais les autres, je sais pas où ils sont passés. Tous les silures qu'on prenait sous tous les troncs d'arbres qui sont couchés. Généralement, un tronc d'arbre qui est couché en la Loire, un verveux, normalement, on peut estimer qu'il y a 100 kilos de silures de pêche en la semaine. Là, cette année, je suis allé voir, parce qu'on de visu. Ben, on sait pas où ils sont passés, les silures, y a plus rien. Y a plus rien. Il y a quelques bancs de petits poissons, mais
Alors, toutes
ça
ces
n'a pas déçu.
espèces exotiques dont vous avez parlé, donc que ce
Oui.
soit des mollusques, donc des coquillages, des poissons comme le cendre et la jussie, donc cette petite plante là qu'on voit partout, hein, est-ce que vous pouvez la décrire, hein?
La jussie, ben, ça fait des. Ce sont des... C'est une plante qui pousse avec des rhizomes, qui s'étendent, qui font des radeaux, qui poussent en bordure de cours d'eau et après qui font des radeaux sur la surface de l'eau. Et le problème, c'est que ça a une densité
Avec des petites
telle.
fleurs jaunes.
C'est une densité telle de feuilles. Bon là c'est pas trop large, mais à l'aval de Tours il y a un tiers de jussie, un tiers d'eau, un tiers de chair. Et le problème c'est que la densité de feuillage est telle qu'il n'y a pas de lumière à passer à travers, donc en dessous tout est mort. Et en plus, la densité de rhizome est telle que, comme on a des crues, ça bloque, ça capte tous les sédiments. Donc on a comblement, comme ça se développe d'abord dans les zones où il y a peu de courant, tout ce qu'on appelle les annexes hydrauliques, qui sont les réservoirs de vie, hein, toutes les frayères, les bras secondaires, les boires, les zones un peu calmes qui font une diversité d'habitat. Eh bien, toutes ces zones qui permettent diversifier l'habitat, où beaucoup d'espèces, notamment de poissons, se reproduisent, sont en voie de comblement hyper rapide. Donc on risque d'avoir une simplification de l'écosystème et un facteur d'exclusion supplémentaire de nos espèces, comme le fameux brochet qu'on essaie de sauvegarder. Bon, ça a des effets positifs parce que, par exemple, sur certaines espèces comme les amphibiens, les grenouilles, on n'entendait jamais de grenouilles au bord de Loire, puis depuis qu'il y a ces jouissies, on a des millions de grenouilles le long de la Loire.
Alors, est-ce que, comme pour certaines espèces invasives sur le milieu terre, on va dire, sur la terre, le citoyen lambda peut essayer de détruire un peu ces jouissies invasives ?
Citoyen lambda, il peut rien faire parce que c'est tellement énorme cet envahissement que c'est en plus, il faut arracher à la main, mais tout arracher. Si à chaque fois que on pourrait dire broyage mécanique, on peut pas parce que chaque fragment va refaire une plante. C'est vraiment infernal. Hein. Alors le Roundup, certaines associations de pêche utilisent du Roundup, mais c'est une catastrophe quoi. Mettre du Roundup sur nos cours d'eau, on sait que c'est un problème de pollution assez grave.
Quoi. Oui, on peut pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça.
On l'a dit à Thésée, ils le font quoi. Hein.
Ouais, mais il faut surtout pas faire ça.
Il faut surtout pas faire ça.
D'accord. Donc toutes ces espèces invasives dont on vient de parler, comment elles sont venues jusque ici dans le Cher et dans la Loire ?
Le commerce international.
Donc
la vente libre des poissons d'aquarium tropicaux dans toutes les jardineries de France. Bah, un jour, quelqu'un qui déménage ou qui n'a plus envie de son aquarium ou qui balance ses poissons d'aquarium dans l'étang à côté ou dans la rivière.
Ou les petites tortues Floride.
Ouais, bah, le pseudorasbora, même topo, quoi. Ce sont des
aquariophiles. Il ne faut pas faire, il ne faut pas rejeter. Donc,
c'est trop tard.
Ouais, mais pour les gens qui pourraient encore le faire.
De toute façon, il y a forcément des gens qui vont le faire. C'est pas parce que des lois interdisent des choses que le statut nuisible en France, il date de très très longtemps. Le poisson-chat, que j'ai en Amérique du Nord, a statut nuisible depuis. Il était introduit en 1880, comme la perche arc-en-ciel, comme la vieille crevisse américaine. Statut nuisible a introduit le fait qu'on n'a pas le droit de remettre ces animaux à l'eau quand ils sont pêchés, mais aussi qu'on n'a pas le droit de les transporter vivants. C'est pour se garantir que les gens vont pas en remettre ailleurs. Et bien, résultat, après 100 ans, c'est qu'il y en a partout où il y en a à voir. Donc la loi et la réglementation étaient complètement inopérantes. Et il y a des effets pervers, c'est qu'il y a deux nouvelles espèces de crevisses américaines, la Louisiane et la Californienne, qui sont en train d'envahir la France. Et la loi française fait qu'on ne peut pas nous être partenaire de la gestion de l'environnement, parce que si je pêche ces crevisses, je n'ai pas d'autre choix que de les écraser dans mon bateau. Si j'y arrive au bord et que je suis contrôlé par un agent garde-pêche, gendarme ou autre, et ben j'ai un PV pour transport vivant d'espèces interdites. Donc je ne peux pas commercialiser des produits écrasés, moi, c'est pas possible. Donc, ce qui est aberrant, c'est qu'on n'a pas le droit d'exploiter ces espèces qui ne peuvent être vendues que vivantes, alors qu'on importe 2000 tonnes en France. Donc, avec 2000 tonnes, on pourrait créer quelques emplois ou en maintenir en France. Donc, c'est tout à l'envers.
D'accord. Donc, mauvaise qualité des cours d'eau, c'est un peu déprimant tout ça. C'est quoi la solution ? Les solutions ?
Bah, c'est mettre en œuvre des programmes un peu plus volontaristes de restauration de la qualité écologique des eaux, comme l'exige la DCE. La directive 4 sur l'eau. Mais là, avec le nouveau comité de bassin qui vient d'être mis en place pour Loire-Bretagne, il est à craindre que ça n'aille pas tout à fait dans ce sens-là.
Alors, vous portez un logo sur vous, Poisson sauvage du bassin de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Ça, c'est une marque collective qui a été créée par une quinzaine de pêcheurs professionnels sur bassin Loire pour mieux valoriser nos poissons. Parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où nos poissons ils étaient comparés à des poissons d'élevage de mauvaise qualité ou d'importation. Et où pour continuer à vivre de notre travail et donc à mieux vendre le poisson et pas le brader au viri du plus bas cours mondial, comme certains l'exigent, pour simplement garder un poisson de qualité qu'ils ont à un prix raisonnable. Eh ben on a choisi de créer cette marque collective. Donc on a des pins qu'on met sur les opercules des poissons pour garantir leur origine et leur fraîcheur, parce qu'au dos on a la date de pêche.
D'accord, donc c'est un peu comme un label qui garantit une pêche locale, respectueuse de l'environnement, on peut dire.
Oui, puisqu'on on a fait une plaquette qui est coproduite par donc cette association, le WWF, l'établissement public Loire,
D'accord.
donc et Slow Food.
Slow food, c'est quoi?
Slow Food, c'est une ONG mondiale. Slow Food donc a recensé 1200 communautés, ça s'appelle les communautés de nourriture. Et notre association Pêcheurs pour Sécurité Loire a été sélectionnée pour Slow Food pour être une des 1200 meilleures petites communautés de producteurs qui respectent. Bon, l'idée, c'est il y a trois principes dans Slow Food, c'est privilégier ce qui est bon, donc une saveur liée à un savoir-faire, un terroir, une qualité gustative. Ce qui est propre, c'est-à-dire produit dans des conditions garantissant la meilleure qualité de l'environnement possible, donc pas destructrice de l'environnement, et juste. C'est-à-dire payer aux producteurs un prix digne qui leur permette de vivre et de ne pas surexploiter l'environnement. Voilà.
D'accord. Alors, ces poissons sauvages du bassin de la Loire, où est-ce qu'on peut les acheter ou bien les déguster?
Pour l'instant, déguster dans les restaurants, il y a très peu d'entre nous qui faisons des marchés. Je crois qu'il y a Dominique Robion sur Nantes qui fait des marchés.
Alors, quel
Marché
restaurant,
Valençay.
dans quel coin de la France?
Bah, le long de la Loire, entre la région centre et puis région Pays de Loire, surtout le long de la Loire.
Et combien de restaurants à peu près?
Je pense une quarantaine de restaurants.
Vous avez un site internet où
Il y a un
trouver?
site Poissons Sauvages de Loire et puis je pense qu'on peut trouver par les liens avec l'établissement public Loire donc ou Slow Food. On est en mesure de trouver des listes de restaurants maintenant. Oui.
D'accord. Alors l'établissement public Loire, c'est quoi?
C'est un collectif de collectivités territoriales avec des régions, départements et syndicats intercommunaux ou grosses villes qui adhèrent pour. Autrefois, c'était pour construire des barrages sur la Loire qui maintenant ont une vision un peu plus intégrée d'aménagement de la Loire et qui du coup soutiennent ce genre de démarche.
D'accord.
L'avantage par rapport aux collectivités, c'est qu'ils ont fait des efforts considérables d'investissement dans les passes à poissons, dans l'amélioration de la qualité de l'eau, en espérant des retours de poissons migrateurs qui leur a imposé par ailleurs, notamment, et que nous, finalement, on permet un retour sur l'investissement en mettant sur le marché, hein, la gastronomie. Donc ça participe aussi à la réputation mondiale de la gastronomie française, les meilleurs restaurants du Val-de-Loire ont des poissons de Loire. Donc quelque part les élus ont un retour sur investissement.
Alors, les poissons de Loire, les poissons sauvages du bassin de la Loire les plus réputés et les plus typiquement de la Loire, c'est lesquels?
Bah, autrefois il y avait le saumon, mais il est entièrement protégé. Il reste la lauze, la lamproie, l'anguille, le sandre, le muvet, le silure qu'il faut essayer de valoriser. Les espèces abondantes hein, qui sont revenues en force, c'est essentiellement la lamproie, la lauze, le mulet, et puis il y a une espèce invasive qu'il faut qu'on régule, et donc le meilleur moyen de réguler, bah, c'est de les manger, donc c'est le silure.
D'accord.